Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h04, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi jusqu'à 15h avec Rémi Barré, avec l'économiste Pierre Rondeau, avec le journaliste Fred Hermel et avec l'infectiologue Robert Sebag. Bah tiens, justement, on va parler santé dans un instant. Faut-il rembourser les frais médicaux en fonction des revenus des patients? C'est Bruno Le Maire qui avait soumis cette idée avant de rétro-pédaler. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On va revenir sur le clash Natacha Saint-Pierre, Inès Reg. Tout le monde ne parle que de ça. Est-ce que vous êtes plutôt Natacha Saint-Pierre ou plutôt Inès Reg? On parlera également d'une bouteille de vin à 1,66€ qui fait polémique. Et puis, le gouvernement cherche-t-il à cacher les migrants pendant les JO? On en débattra à 13h30. À 14h, 4 Français sur 10 ont déjà consulté le portable de leur conjoint, mais espionner son amoureux ou son amoureuse, est-ce normal ou malsain? Il y aura RMC Conso, avec le retour en force des consignes pour le verre. Vincent Serroussi, notre humoriste, à 14h50. Et puis, on fait gagner beaucoup d'argent sur RMC.
C'est le retour du coffre RMC. Et effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Jusqu'à 50 000 euros à remporter. Dès que vous entendez ce signal. Voilà. Bon, voilà. Il est là. Il s'est fait attendre, mais il est là. Vous aurez alors 5 minutes pour vous inscrire en envoyant le mot coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Ce signal, il peut tomber à tout moment, tout au long de la journée, dans toutes nos émissions, même pendant les pubs. Donc soyez bien attentifs. Vendredi prochain, l'un d'entre vous sera avec nous. Si vous êtes sélectionné, bah vous repartirez avec la somme de 2 500 euros. Et à ce moment-là, vous avez le choix soit de conserver ces 2 500 euros, soit d'accepter d'y renoncer pour pouvoir ouvrir le coffre RMC. De toute façon, vous serez gagnant, puisqu'à l'intérieur du coffre, il y a soit une semaine de vacances dans un des campings Tikayan en France pour 6 personnes, soit la somme de 50 000 euros. Coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
13h06 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec la réflexion du jour. Et c'est celle de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui n'est pas forcément hostile à l'idée de rembourser les soins médicaux en fonction des revenus des malades. La France est le pays européen où les dépenses de santé sont les plus élevées. Et ce matin, le ministre de l'économie a insisté sur la nécessité de faire des économies justement sur les dépenses de santé. Ah, alors attendez, on n'a pas le son de Bruno Le Maire, mais il disait effectivement que c'était une des pistes à explorer, qu'il y avait plusieurs pistes. Voilà. Rémi, mais en tout cas,
il ne fermait pas la porte.
Voilà, il a commencé à la fermer.
Il a fermé là, il y a
quelques minutes. Mais en tout cas, l'idée de rembourser les soins médicaux en fonction des revenus des patients, cette idée n'est pas nouvelle, hein, Rémi.
Oui, alors le ministre, hein, on l'a dit à l'instant, il a fermé la porte. Hein, il a dit non, j'ai mal été compris, mes propos ont été tronqués. Ce n'est absolument pas une piste qui est suivi par le gouvernement. Reste que ça existe, hein, cette idée. Déjà en 2007, Nicolas Sarkozy l'avait envisagé pour réformer la sécurité sociale, défendue par Bertrand Fragonard, à l'époque président du Haut Conseil de la Famille. Ce dispositif n'avait finalement pas vu le jour. 6 ans plus tard, en 2013, dans une étude publiée par l'INSEE, 2 chercheurs, 2 économistes, des camarades à toi, Pierre Rondeau, avaient relancé le sujet, sachant que les montants restants à charge des 10% des Français les plus pauvres représentent 8% de leurs revenus et que ça représente 0,6% des revenus des 10% des Français les plus riches. Les économistes suggéraient alors de réformer le ticket modérateur, à savoir la part restant à la charge des patients, et de l'appliquer en fonction des revenus des assurés. Une franchise annuelle aurait d'ailleurs pu être instaurée, selon eux, comme cela existe déjà en Suède, en Suisse ou aux Pays-Bas. Le principe de ce système revient donc à réduire un peu la couverture de l'ensemble des assurés pour améliorer celle des personnes qui nécessitent davantage de soins.
Alors, rembourser les soins en fonction des revenus des malades, est-ce une bonne ou une mauvaise idée, Robert Sebag?
Écoutez, notre pays a une histoire. Au moment de la libération, en 1945, le général de Gaulle, si vous voulez, il y a eu quelque chose de très très fort. C'est l'universalité à la fois des allocations familiales et de la sécurité sociale. Donc là, on toucherait vraiment à un tabou, si vous voulez. Donc,
un fondement de notre société.
Voilà. Et donc, cette philosophie de la solidarité pourrait disparaître. Alors, effectivement, il y a un déficit de la sécurité sociale. Il peut y avoir des mesures ponctuelles. Vous avez vu que, par exemple, on passe de 50 centimes d'euros à 1 euro sur la boîte de médicaments. Ouais. Il y a aussi la responsabilisation. On est aujourd'hui, moi je le vis à l'hôpital, les gens ne savent pas ce que coûte leur soin. Ils vont à la pharmacie avec leur carte vitale, ils ressortent avec leurs médicaments, ils ne savent pas du tout que ça a coûté. On a des gens en réanimation, ça coûte 3 000 à 4 000 euros la journée. Ils ne savent pas du tout combien ça coûte. Donc, il y a déjà cette responsabilisation. Après, si vous voulez, la sécurité sociale, elle est payée aussi par les cotisations des travailleurs. Et donc, plus vous êtes un salarié bien payé, plus vous allez payer proportionnellement de charges. Donc, ça existe déjà, si vous voulez. Ça vous paye beaucoup plus. Donc, changer complètement, à mon avis, il faut pas toucher à ce type de tabou. Ils avaient essayé avec les allocations familiales sur cette universalité. Je trouve que ça serait dommage, et c'est vrai que c'est unique. Notre pays est unique, parce que dans les autres pays, cela n'existe pas. Alors après, sur les économies, on peut voir aussi le rôle des mutuelles. On sait qu'il y a quand même un matelas financier auprès des mutuelles, alors qu'elles augmentent en permanence. Elles pourraient aussi jouer un rôle pour diminuer.
Mais les
coûts.
Mutuelles, après, chacun fait ce qu'il veut. Personne n'est obligé de prendre une mutuelle.
Il peut y avoir aussi des économies à faire sur le fonctionnement de la santé. Quand on voit la charge administrative dans les hôpitaux français, c'est 35% de charge administrative, que c'est uniquement 17% en Allemagne. Il y aurait aussi, là aussi, à faire des économies et ne pas toucher sur ce tabou, si vous voulez, qui est cette universalité, quel que soit, de tous les Français riches ou pauvres.
Fred Hermel, est-ce qu'on fait une différence lorsqu'on soigne entre une personne riche et une personne plus modeste?
Mais quelle honte! Ah, moi, ça m'horrifie. Quand j'ai entendu Bruno Le Maire.
Je ne dirais pas, mais.
Ah non, non, je ne plaisante pas. Ça m'horrifie. C'est toute notre société qui est remise en cause. Il faut savoir la dangerosité de ça. Parce que quand on met le doigt là, à un moment, on va dire
ben oui.
Cancer du poumon, ah bon, vous fumiez? Eh bien, vous allez le payer. Alors vous avez un cancer, bien, c'est quoi? Pancréas, ah, c'est pas de votre faute, donc vous, on va vous le payer, votre cancer.
En Angleterre.
Mais poumon, ah bon? Cancer du foie? Vous buvez un petit peu trop de pinard? Allez, vous allez le payer. Vous vous rendez compte du danger que représente ça? C'est non seulement honteux, mais c'est dangereux.
Mais là, c'est en fonction des revenus.
Je suis désolé.
Non, mais la dangerosité, ce serait de te dire après, bah tiens, l'électricité, tu vas la payer plus cher parce que tu gagnes plus.
Mais non,
ou
non,
l'eau,
non,
tu
non,
vas
non.
la payer plus cher.
Non, moi, c'est en fonction des revenus en disant, bah oui, ben, toi, alors aujourd'hui, par exemple, quand on a une maladie de longue durée, par exemple, un cancer, c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale.
Ouais.
Donc, à un moment, quand on ouvre la porte à genre de sauge, on dit, ah bah oui, mais toi, t'as de l'argent, donc ton cancer, tu vas le payer.
Mais
en plus, c'était un peu coupable. Donc, je te parle.
C'est le ticket modérateur.
C'est une fois qu'on met le pied dans cette porte-là, je peux dire, elle se referme jamais et elle s'ouvre énormément. C'est extrêmement dangereux. Mais il a pas fait ça par hasard, hein. C'est toujours une petite sonde, hein, qu'on appelle ça un ballon sonde, hein. Un ballon d'essai. Pour essayer de voir la réaction des gens. Heureusement, il y a encore des gens qui en France s'horrifient de ce genre de choses. Mais il faut voir le danger. Et pourquoi en essayant de dire on va sauver la sécurité sociale comme ça, on va la détruire? Parce qu'à un moment, les gens qui ont de l'argent vont dire mais moi je veux plus participer à cette caisse. Parce que si moi je participe à cette caisse et qu'après on me soigne moins bien que les autres.
C'est pas moins bien, mais c'est que tu devras débourser plus d'argent.
À quoi ça sert? Dans ce cas-là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais payer une assurance privée. Et voilà, avec eux. Et je vais choisir moi les droits que je vais avoir et pour lesquels je vais payer. Donc ça peut mettre gravement en danger non seulement le symbole de l'universalité des soins, mais aussi la propre sécurité sociale. Parce qu'à un moment, les gens voudront partir et on sera où? On sera aux États-Unis et ce sera une catastrophe.
En plus, il y a aussi cette idée que ce sont les riches finalement qui abusent. Quoi.
Bonjour, la définition du seuil. Hein, il faudra définir le seuil. Ouais.
On rappelle quand même que quand les médicaments sont remboursés, c'est qu'ils ont été prescrits par des médecins. C'est-à-dire que le médicament de confort, petit truc, ta petite pastille isopaïne là, quand t'as mal à la gorge.
C'est bon.
Bah, a priori, ou ta solutricine, je crois que ça n'existe plus. A priori, ça, tu la payes de ta poche, que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Donc, en fait, c'est vraiment pour des soins qui sont prescrits par les médecins. En tant qu'économiste, Pierre Rondeau, est-ce que ça vous paraît être une belle piste pour faire des économies?
Rappelez-vous qu'on dit que l'économie est une science lugubre, que l'économie ne se préoccupe pas de la morale, mais de ce qui est. Et ce qui est, c'est le déficit public, c'est le déficit de la sécurité sociale. Et si je veux raisonner de façon extrêmement pragmatique, mais limite cynique économiquement, oui, on doit aller vers ce genre de considération, de distinction, comme tu l'as dit Fred, une réalité malheureuse, entre les ménages riches et les ménages pauvres. Parce que, par exemple, Robert, tu disais que l'universalisation, elle peut être justifiée par le fait que les riches payant plus de cotisations, il est normal qu'ils aient en retour...
Non, mais ça existe déjà, je dis pas qu'ils aient...
Sauf que le taux de cotisation est le même, finalement, que tu sois riche ou pauvre, tu payes le même taux de cotisation.
La somme n'est pas la même.
Je veux dire, c'est que tu peux justifier l'universalisation par l'impôt proportionnel et non pas progressif. Le taux est le même, que tu sois riche ou pauvre. Donc si c'est un même taux, bien que vous avez raison, à rémunération plus élevée, au final, la somme sera plus forte, le taux est le même. Donc ça justifierait l'universalisation. Moi, je pourrais être plutôt partisan d'une progressivité des taux de cotisation pour maintenir une forme d'universalisation. Les riches paieraient plus de cotisations pour avoir en retour.
C'est le cas.
Pour avoir... Attends. Je le dis au conditionnel. J'ai aussi conscience, et Fred l'a très bien à juste titre rappelé, des effets pervers de ces conséquences. Quand en mettant en place de façon extrêmement cynique un modèle de réduction des coûts par ce genre de différenciation qui économiquement se tient, on en vient au modèle américain où les gens se tournent vers les boîtes privées, vers les mutuelles privées, et les Américains, les montants, les dépenses allouées à la santé par rapport au PIB sont plus importantes que les dépenses françaises, alors qu'ils sont moins bien soignés, parce que les riches payent beaucoup.
Et l'espérance de vie est différente. Vous avez tout à fait raison.
Est plus faible, la santé est plus faible. Donc, il y a plein d'effets pervers.
Après, je vais quand même te dire un truc. C'est que la personne qui est riche, elle va pas tout se faire rembourser. C'est-à-dire que la personne qui est riche, en fait, tout simplement, il y a les trucs qu'elle va payer de sa poche. Le transport médical, elle ne va jamais prendre un transport médical parce qu'elle va se payer un taxi, elle va machin. Il y a plein de choses, en fait, qu'elle va se payer elle-même. Oui. Par exemple, même sur les affections longue durée, tes séances de kiné, parfois, tu vas les payer de ta poche parce que, voilà, t'as pas envie d'aller faire les démarches, etc. T'as plein de choses où la personne plus riche va moins se faire rembourser qu'une personne moins aisée, et c'est parfaitement normal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment tu peux pas, parce que encore une fois, si tu commences à faire ça derrière, tu t'arrêtes ouf. Après, c'est que l'électricité, pourquoi est-ce qu'une personne riche paierait son kilowattheure de la même manière qu'une personne pauvre? On va lui faire payer plus cher, c'est normal, elle est riche. Et puis après, ce sera ton eau. Mais pourquoi est-ce que tu paierais le mètre cube d'eau de la... c'est pas normal, la personne pauvre elle peut pas payer son mètre cube d'eau. Riche a qu'à payer pour le pauvre. Tu mets le doigt partout.
Ouais, mais l'argumentation de dire on met le doigt sur, c'est difficile dans l'argumentation, dans le débat, de simplement raisonner sur les perspectives possibles et conditionnées.
Mais tu sais très bien,
sais pas ce qui pourrait se
regarde
passer.
Regarde les EHPAD, c'est passé hier. Les EHPAD aujourd'hui, ils vont être en fonction des revenus. C'est-à-dire que si t'es une personne âgée riche, tu paieras plus cher ton EHPAD public que la personne âgée pauvre. Qu'est-ce qui va se passer? La personne âgée riche, elle va plus aller à l'EHPAD public, elle va aller à l'EHPAD privé. Donc tu vas avoir des EHPAD privés de luxe pour les riches et des EHPAD publics uniquement pour les pauvres. Et si t'as uniquement des pauvres dans les EHPAD publics, je peux te dire que la qualité, elle va se ressentir. Pas parce que ce sont des personnes pauvres, mais parce qu'elles ne pourront pas payer. Et donc, c'est comme les crèches. Aujourd'hui, les crèches, les personnes, effectivement, à haut revenu, elles payent plus cher. Mais si tu veux, il y a un moment, tu peux pas toute ta vie payer plus cher. Tu vois, c'est pas
bien
possible.
Bien sûr, c'est pour ça que je le répète, d'un point de vue strictement économique, ça se tient comme proposition. Mais je suis entièrement d'accord avec vous que moralement, politiquement, médicalement, scientifiquement, et même, culturellement,
à court terme, économiquement, ça court terme, mais à terme, non.
À court terme,
Pierre,
oui.
Vous pensez pas que, au lieu d'une telle mesure, il y a vraiment des économies à faire?
Mais bien évidemment.
Vous savez quel est le coût de l'administration de la sécurité sociale?
Énorme.
Le nombre d'employés, il y a plus de 80 000 employés.
Après, ils sont efficaces. Quand tu les appelles, ils...
D'accord, mais est-ce qu'on a besoin de cette régulation?
Alors, juste, je voudrais qu'on prenne tout de suite en ligne notre invité, c'est Pierre Dharréville, il est député PCF des Bouches-du-Rhône et membre de la commission des affaires sociales. Bonjour Pierre Dharréville.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour ce débat. Alors, Bruno Le Maire avait un petit peu lancé l'idée ce matin, il a très vite rétropédalé sur le remboursement des soins en fonction des revenus des patients. Est-ce que vous trouveriez que c'est une bonne idée?
Non, c'est une idée qui est extrêmement dangereuse.
D'accord.
Je crois qu'il faut respecter le principe de la sécurité sociale. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. C'est un principe de solidarité totale et c'est ça qui permet de garantir que la sécurité sociale fonctionne. Donc si on commence à s'attaquer à ce principe-là, je crois qu'on part dans une très très mauvaise direction. En réalité, le système aujourd'hui, il est déjà fondé sur l'idée que la cotisation, elle est indexée sur les revenus. Donc on cotise selon les moyens dont on dispose. Voilà, déjà aujourd'hui. Donc c'est pas la peine de rajouter des faux débats dans la discussion. Et puis ensuite chacun effectivement a droit d'être remboursé selon les besoins qui sont les siens. Je crois qu'il faut pas porter atteinte à ce principe. C'est-à-dire qu'on la santé de l'un vaut la santé de l'autre et donc on a tous droit. On a le même droit à la santé en réalité. Voilà.
Mais c'est vrai que Pierre Dharréville, on aurait pu se dire assez basiquement, au niveau de l'extrême gauche, ils vont plutôt être sur l'idée de taxer plus les riches, même si ce sont pour des soins médicaux, vous voyez.
Alors, je me permets de vous dire que moi, je suis de gauche. L'extrême gauche, ce n'est pas moi. Mais cela étant, le principe que nous avons toujours défendu, c'est de sanctuariser un certain nombre de ressources créées par les richesses du travail dans le pays, créées par le travail, au sein de la sécurité sociale pour les partager. C'est ça, être de gauche, de mon point de vue. Ensuite, la redistribution et la taxation des revenus, c'est l'impôt. On est dans un autre registre. Il y a d'un côté la sécurité sociale, le financement de la sécurité sociale. De l'autre, il y a l'État, effectivement, la fonction redistributrice de l'impôt. Et je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais c'est ce qu'on a tendance à faire, effectivement, en intégrant de plus en plus le budget de la sécurité sociale au budget général de la puissance publique. Et ça, je crois que c'est un problème parce que les dépenses de santé, elles doivent, à mon avis, être sanctuarisées.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait justement pour les limiter, ces dépenses de santé? On est les plus mauvais élèves de l'Europe. On est ceux qui dépensent le plus.
Je pense qu'il faudrait regarder de plus près qu'est-ce qu'on calcule exactement quand on dit qu'on dépense le plus. En tout cas, faire des économies sur la santé, ça a un coût, hein. Et on le paye d'ailleurs régulièrement. Moi, il me semble que il y a vraiment besoin, en tout cas. Le ministre emploie une expression ce matin qui m'a choqué. Il a dit c'est pas open bar.
Oui.
On n'est pas dans la consommation de boissons.
Comme si les gens étaient contents d'être malades, quoi.
Oui, voilà. C'est-à-dire que là, on répond à ses besoins de santé. Alors après, on peut toujours discuter du périmètre de ce qu'on rembourse. Et moi, je suis pour qu'on rembourse toute la santé, en réalité. On a des personnes qui ont un reste à charge conséquent et qui ont des affections de longue durée et qui en réalité, sont remboursées trop peu par rapport au coût que ça représente pour eux. Et donc, il me semble vraiment qu'on a besoin d'une sécurité sociale puissante pour être en bonne santé, tout simplement, et qu'on ne peut pas jouer avec ça.
Merci beaucoup, en tout cas, Pierre Dharréville, d'avoir été notre invité sur ce débat. Député PCF des Bouches-du-Rhône. Nathalie, également, est avec nous. Elle nous appelle de Saint-Sigismond, dans le Maine-et-Loire, et elle est chauffeur poids lourd. Bonjour, Nathalie.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Nathalie. Vous vouliez réagir sur ce débat. Est-ce que ce serait une bonne chose pour vous de rembourser les soins en fonction des revenus?
Alors moi, je suis en plein dedans parce que je suis atteinte d'un cancer, donc depuis quelques mois, et je me servais jamais de la sécu parce que j'en avais pas besoin et puis c'est pas mon truc. Et aujourd'hui, je me rends compte que par rapport à ce que je cotise en étant malade, eh bien, on n'est pas si remboursé que ça, en fait. Surtout sur des longues maladies.
Vous voulez dire sur vos absences. En fait, les médicaments sont remboursés, mais effectivement...
Non. Alors moi, c'est simple. Hein. Moi, j'ai été obligée de reprendre le travail parce que financièrement, je m'en sors plus.
C'est ça, vous n'êtes pas assez remboursée quand vous êtes absente, en fait.
Ah, moi, je touche 43 euros jour d'indemnité journalière.
Ah oui.
Sur un salaire, moi, je suis à la base, je suis à 2400 net quand je travaille.
Et votre employeur ne met pas le complément?
Non, nous, dans le transport, on n'a pas le maintien de salaire.
Ah oui, donc évidemment, c'est dur. C'est-à-dire que vous avez été obligé de reprendre le travail alors que vous avez un cancer, en fait.
Voilà, je suis en chimiothérapie tous les 15 jours. Ouais. Et entre mes deux cures, eh ben, je travaille parce que je n'ai pas le choix. Quand mon oncologue me dit, il faut vous reposer, ben, je dis, aidez-moi, quoi. Parce que il ne faut pas oublier que sur les indemnités journalières, on va vous retirer. Si vous avez été à la pharmacie, on va vous retirer 1 euro. Si vous avez eu des soins infirmiers, on va vous enlever 1 euro. Tout ça est enlevé sur les indemnités journalières. Donc au final, il ne vous reste pas grand-chose.
Et donc ce que vous dites, Nathalie, c'est que ce serait normal finalement que les plus hauts revenus payent plus?
Non, parce que finalement, ça ne réglerait rien. Le truc, c'est que par rapport à ce qu'on cotise, par rapport à d'autres choses, il y a d'autres choses qui sont trop remboursées par rapport à d'autres maladies.
D'accord.
Moi, je n'étais pas confrontée à un cancer, je ne savais pas, je découvre. Hein. Eh bien, franchement, c'est lourd. Parce que la chimiothérapie, on ne se rend pas compte, c'est lourd, c'est fatigant. Mais financièrement, étant toute seule, maman avec un enfant à charge, eh ben, si je ne travaille pas, je ne m'en sors pas.
Oui, c'est ça. C'est effectivement,
vous pointez du doigt. Ce n'est pas les soins indirectement,
non, c'est tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et puis après, c'est vrai que ce que vous dites, Nathalie, en fait, vous avez cotisé toute votre vie sans jamais avoir été malade. Et après, quand ça vous tombe dessus, vous avez l'impression d'avoir cotisé.
Les travailleurs indépendants par rapport aux entreprises.
Et exactement, mais vous avez l'impression que finalement, ce qu'on vous offre n'est pas à la hauteur de vos cotisations. En tout cas, merci Nathalie d'avoir été avec nous. Et puis, bon courage pour la suite. Nathalie, merci en tout cas pour ce témoignage. Et on a beaucoup de messages également sur l'appli RMC, Rémi.
Beaucoup d'interrogations sur cette éventualité de faire payer les remboursements de santé en fonction des revenus. Cadiz nous dit, c'est qui le riche? À partir de quel salaire est-on riche? Il y a ce message de David également qui nous dit, si l'on veut réduire le coût de la sécu, il faut d'abord mettre le paquet sur la médecine préventive.
Exactement. D'accord. Et puis après, il y a plein de choses qui sont remboursées. Les cures thermales sont remboursées par un Robert, je ne sais pas si ça marche, mais
l'homéopathie à une époque, non?
Non, l'homéopathie n'est plus remboursée, mais les cures thermales sont remboursées. Je ne sais pas s'il y a une preuve de l'efficacité des cures thermales. Je me tourne vers Robert qui ne veut pas me regarder.
Vous avez des médecins thermalistes qui montrent.
De moins en moins, je pense. Oui.
Vous avez par exemple, je ne vais pas lui faire de la pub, mais vous avez une station, j'avais regardé ça de près, qui s'appelle Roya, près de Clermont-Ferrand, sur les artérites des membres inférieurs. Sur les personnes qui ont des artérites, donc des troubles de la marche.
Oui.
Et vous avez des injections de gaz carbonique qui, effectivement, dilatent et met une vasodilatation des artères au niveau des membres inférieurs, et ça donne de très très bons résultats. Et ça, c'est une station thermale, et c'est normal que ce soit remboursé. Après, vous avez
tous les vrais soins.
Vous avez tous les rhumatismes, les problèmes ORL chroniques, vous avez des stations dans les Pyrénées, avec du soufre et tout, ça donne des soins. Après, de l'autre côté, si vous voulez, ça fait aussi marcher et faire travailler un certain nombre de personnes, des zones parfois qui ne sont pas des zones rurales.
Enfin, est-ce que c'est à la sécu, je veux dire, de payer pour les...
Une partie...
Non, attends, c'est pas un argument, ça.
Mais il faut voir les personnes qu'on voit au niveau médical. Vous avez des gens, effectivement, pour qui vous pouvez penser que vous allez améliorer leur santé et que derrière, il n'y aura pas des soins supplémentaires qui vont coûter à la sécurité sociale.
C'est un placebo,
c'est aussi quelque part préventif. C'est pas... Le placebo soigne, parfois.
On va voir tout de suite le sondage Rémi sur le compte Twitter d'Estelle Midi. On vous a posé la question: rembourser les frais médicaux en fonction des revenus, est-ce une bonne ou une mauvaise idée?
Si Bruno Le Maire a vraiment l'intention de fermer la porte, qu'il la ferme bien, parce que c'est une mauvaise idée. 75% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Eh bien, ça ne m'étonne pas. Dans un instant, il y aura le zapping, le meilleur des RMC. On se demandera si vous êtes plutôt Natacha Saint-Pierre ou Inès Reg. Là, le clash est absolument incroyable dans Danse avec les Stars. On parlera aussi de cette bouteille de vin qui fait polémique, une bouteille de vin à 1,66€ seulement. C'est l'enseigne Carrefour qui la propose. Et puis, le gouvernement chercherait-il à cacher les migrants et les SDF pendant les JO? On en parle avec vous dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h30, on est de retour sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Rémi Barré et Pierre Rondeau, avec également Fred Hermel et Robert Sebag. Et tout de suite, c'est le zapping, le meilleur des RMC.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on démarre avec un extrait des GG ce matin sur RMC. Le gouvernement chercherait-il à cacher les migrants et les SDF pendant les JO? Hier, le maire d'Orléans a poussé un coup de gueule pour dénoncer la venue de migrants dans sa ville. Selon lui, ceux-ci se seraient déplacés en catimini pour faire place nette à Paris. Une situation qui scandalise le cheminot des GG, Bruno Poncet.
Scandaleux.
Les gens, ils viennent ici, ils ont fui la guerre, ils ont fui le malheur.
Non, pas la plupart, il n'y a pas de guerre.
Non, mais arrête-toi, va aller voir. Moi, je vais te dire un truc, va voir la CIMAD. Moi, j'ai été voir la CIMAD il n'y a encore pas longtemps. Va voir les profils qu'ils ont devant eux. Tous les jours, on les jette, tous les jours, on leur déchire les tentes qu'on leur offre, on leur empêche d'avoir à manger, on les envoie maintenant à Orléans. Et tout ça en disant, c'est ça l'humanité. Allez-y.
Le gouvernement qui veut cacher les migrants pour les Jeux Olympiques, est-ce que ça vous scandalise, Robert Sebag?
Moi, complètement. Ça me scandalise parce que on veut vider Paris d'une réalité qui sont les SDF. Ils existent, ils sont là à cause des JO. On veut faire bonne image et on balance, il s'agit d'êtres humains dans des petites villes. Alors là, c'est Orléans parce que le maire s'est rendu compte. Donc on loue des hôtels et après ils deviennent quoi? On fait quoi?
Mais à Paris, ils font quoi?
Non, mais là, on veut vider Paris. Mais c'est une réalité, les sans-abri à Paris, et les SDF et les clandestins, c'est une réalité. Donc, on veut nettoyer la ville pendant un certain temps, on enlève la poussière sous le tapis.
Mais qu'est-ce qu'il fait à Paris pour les migrants,
D'accord, mais là, c'est trop tard pour régler le problème. Le problème de fond, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des abris particuliers? Est-ce qu'on a construit à Paris ou on laisse les tentes sous le métro aérien à la place Stalingrad?
Ils sont en train d'enlever les tentes, justement.
Voilà, donc ils sont enlevés dans le... Mais
donc
ces gens, ils existent.
On laisse les tentes, on laisse les migrants pour les JO, on ne change rien.
Non, mais ces gens... Non, mais trouvons des solutions.
Mais vous êtes les premiers à dire, les JO, c'est le rayonnement de Paris dans le monde entier.
D'accord, mais alors on trouve des solutions pérennes. On avertit le maire d'Orléans.
Mais c'est trop tard, on est à 4 mois.
On fait ça en catimini. Donc ça veut dire que quelque part on culpabilise, donc on sait qu'on fait quelque chose de pas bien et on trouve pas de solution. À la rigueur, on appelle un certain nombre de villes, on leur dit voilà, on va financer un certain nombre. Est-ce que pendant quelques temps, nous allons essayer de décentraliser la problématique?
Mais les villes diraient non. C'est mal fait comme ça, c'est juste on vous envoie un quart de migrant.
Mais
si
on parle d'êtres humains, ils sont là, ces gens. On parle d'êtres humains, on parle pas de n'importe qui.
Ben je suis d'accord.
D'accord, mais
est-ce qu'ils sont mieux traités à Paris, je veux dire, qu'à Orléans?
Non, mais on peut pas. Mais que ce soit à Paris ou ailleurs, ils doivent être bien traités.
Bah
ou alors on trouve des solutions à Paris. On trouve des solutions à Paris et on dit on va centraliser, on va trouver un certain nombre d'hôtels qui sont liés. Alors, mais c'est les
Jeux Olympiques. Robert, la situation ne date pas d'hier. Ça fait des années.
Avec vous.
Je veux dire que les temps sous les ponts, ça fait des années.
Mais vous ne faites pas ça en catimini. Non, ils existent, ces gens. D'accord. Et on ne fait pas ça dans le dos des maires. On trouve des solutions. Et il y a peut-être des villes qui sont d'accord pour prendre ces gens, mais on ne peut pas faire ça.
Très normal.
J'ai bien écouté le maire d'Orléans hein, ce matin sur BFM TV. Il expliquait très clairement que ce qui le gênait surtout, outre le fait qu'il ait été mis devant le fait accompli, c'est que ces gens étaient illégaux et que ces gens n'avaient rien à faire sur les territoires français. Et qu'à un moment, si on veut faire partir ces gens, il faut les faire partir. Si on veut faire pas simplement partir.
Il y en a aussi qui sont en demande de droit d'asile.
Oui,
donc en fait, la situation, elle
n'est
pas juste blanc ou noir.
Je me réfère à ce que disait le maire en disant moi, si ce sont des gens légalement sur les territoires français, je n'ai aucun problème pour les accueillir, si on me prévient. Mais si ce sont des gens. Ils sont sous OQTF, il faut les faire partir. Donc voilà, et moi je comprends très bien, et tu as raison de le dire, mais aucune ville va accepter que sa population...
Bah, si on les envoie sans le prévenir, non, c'est sûr, mais après, voilà, c'est en concertation, s'il y a une vraie politique...
Mais en concertation, ça... Les gens ne veulent pas.
S'il y a une politique d'insertion,
ça représente combien de personnes? Qu'est-ce qu'il en est exactement? On n'a pas
une vérité. Mais de toute façon, il y a un projet du gouvernement depuis
maintenant,
des mois.
Maintenant, Fred, tu as raison, les OQTF, tu sais très bien qu'il faut, il faut des laissez-passer consulaires, que les pays ne veulent pas les prendre, et qu'on en expulse à peu près 6 à 7%.
Il faut fermer les frontières et stopper l'immigration.
Non, mais là, ils sont là, ces gens.
Ils sont là, ces gens.
On ne peut pas jouer comme ça avec des personnes.
Mais déjà, à Paris, il y a quelques semaines, on parlait de ces rochers, vous savez, qui ont été installés sous les ponts pour justement éviter les campements de migrants et les tentes. Donc, je ne comprends même pas que ça vous étonne, parce qu'en fait,
mais non.
À chaque fois qu'il y a une grande compétition internationale,
on enlève la poussière
sur le pays. Dans le monde entier. Hein.
Mais je sais.
Dans le monde, à Londres, à Rio, ils ont tous fait pareil. Hein,
bien sûr. Et c'est scandaleux, on est d'accord, mais chaque ville fait pareil à chaque grande compétition. Les GG ce matin sur RMC, êtes-vous plutôt du côté de Natacha Saint-Pierre ou du côté d'Inès Reg? C'est le conflit de stars dont tout le monde parle actuellement. La chanteuse Natacha Saint-Pierre et la comédienne Inès Reg participent toutes deux à l'émission Danse avec les stars et elles se clashent actuellement sur les réseaux sociaux suite à une mauvaise blague. Enfin, selon Natacha Saint-Pierre, un feuilleton qui dépasse complètement l'avocat des GG, Charles Consigny.
Je vous avoue que ce conflit majeur me dépasse un tout petit peu. J'espère que qui ne prendra pas des proportions trop importantes. Mais écoutez, moi, je regarde pas ces émissions-là. Je comprends pas comment on peut regarder ça. À vrai dire, ça montre le niveau général dans cette émission. Et je constate qu'on ne propose que des trucs débiles à des gens qui malheureusement sont de plus en plus décérébrés à force de regarder ces trucs débiles.
Alors, je me tourne vers vous, Pierre Rondeau, qui regardait peu la télé. Mais Pierre, je crois savoir que vous vous passionnez pour ce conflit.
Assez bizarrement, oui. C'est vrai que je regarde peu la télévision, mais alors je vous avoue que c'était hier matin, Inès Reg publie une story sur Instagram de 50 minutes. J'ai regardé, alors j'ai pas regardé en entier.
Arrêtez, vous avez pas tout regardé.
J'ai dû regarder 10 minutes et après ma sœur m'a fait un résumé parce que ma sœur aussi suit.
Ils sont bien en famille.
Ce qui se passe, hein, vraiment, c'est bien en famille. On commence à discuter, on s'envoie ce qui se passe, les rumeurs. J'envoie des tweets que je vois sur les réseaux où il y a des rumeurs comme quoi il se passe des choses et compagnie. Je vous avoue que hier matin, en écoutant la story d'Inès Reg, j'étais plutôt de son côté, avec sa version des faits, en disant qu'elle avait été insultée par Natacha Saint-Pierre et qu'elle avait mal pris et qu'elle s'était mise à pleurer et que je comprenais sa peine. Et ensuite, on a écouté hier soir la version de Natacha Saint-Pierre qui elle aussi a fait une story sur Instagram. Et là, je suis un tout petit peu plus dubitatif. J'aurais tendance à me tourner vers le camp de Natacha Saint-Pierre. Ce qui s'est passé, voilà, il y a eu une mauvaise blague. Alors, pas drôle en plus parce qu'elle l'a insulté en faisant référence à une autre émission de télé comme Pékin Express. Inès Reg a très mal pris l'insulte. Il y a eu menaces, il y a eu des mains courantes derrière.
Ça s'est envenimé.
Mais ouais, moi ce que je dis c'est qu'il y a des rushs qui existent. Mettez-les, diffusez-les, qu'on constate effectivement si ou pas. Ce qui est génial, c'est qu'on parle quand même de Danse avec les stars, une émission supposée être familiale.
Mais oui,
et là ça parle
hyper feel good.
Mais oui, et là c'est des menaces, c'est des agressions. agressions verbales, c'est des joutes verbales, c'est
en fait c'est des accusations de racisme.
C'est ça, c'est
le bal populaire qui dégénère.
Mais oui, mais complet.
C'est ça, c'est pas danser avec les stars, j'ai jamais regardé cette émission, c'est juste que là
non plus, mais je vais la regarder vendredi. Bah juste je savais même pas que c'était vendredi.
Juste le début, voir si on y a il va avoir une communication de TF1, s'il va avoir
bien sûr.
Je sais pas, je suis curieux.
Alors, il faut pas regarder le début parce que s'il y a une communication de TF1, crois-moi, elle va arriver dans les dernières minutes et il va y avoir un teaser de le mais franchement pendant 2 heures on dit attention ne ratez pas etc etc c'est marrant voilà donc là c'est Pierre Rondeau est à ma droite, à ma gauche il y a Fred Hermel et Robert Sebag et j'ai l'impression que ce conflit vous laisse totalement de marbre.
Complètement de marbre. D'abord je ne savais
mais
pas,
mais c'est l'actu.
Natacha, j'avais entendu
Natacha
parler
Natacha Saint-Pierre,
c'est une bonne chanteuse. Oui.
Inès Rex, c'est numéro, voilà. Qui a dit mais les paillettes dans ma vie.
J'ai entendu un témoignage juste, voilà, parce que comme ça, j'ai dit, je veux pas quand même mourir idiot.
Oui. C'est que
Natacha Saint-Pierre était invitée en province, dans un gala, et elle est arrivée avec 2h30 de retard.
Ça arrive.
Quand elle est arrivée, elle ne s'est pas excusée. Elle a dit que c'était la faute des responsables. Le responsable a pris la parole en disant ça fait un foin pas possible. Et elle n'a pas reconnu son erreur. Et ça vraiment. Et tous les gens qui étaient là l'ont sifflé à mort.
Voilà. Oui, mais Inès Reg, de
ça
son côté, n'a pas été applaudi par les autres membres de l'émission lors de sa dernière prestation.
Excusez-moi, écoutez,
parce qu'elle mettrait une mauvaise ambiance.
Vous savez, Estelle, tant que nous aurons ce type de débat dans notre pays, ça sera très très bien. J'ai peur.
C'est pour ça que je l'ai mis dans le zapping.
Mais c'est bien, ça distrait.
Robert, voyons le déclin de notre pays. Nous sommes passés de la bataille d'Hernani. Cette discussion, cette bataille entre les romantiques et les classiques autour d'une pièce de théâtre de Victor Hugo à ça.
Bah, figure-toi
alors, ne dites pas que mon pays n'est pas
Fred, Fred, au théâtre de Paris, avant-hier, Isabelle Huppert a joué.
Elle a joué Inès Reg
Non, elle a joué une pièce de théâtre, elle s'est fait siffler.
Oui.
Pour les mêmes. Pour la bataille d'Hernani Paris et Victor Hugo, il y a aussi les mêmes choses aujourd'hui qu'il y avait à l'époque.
Il n'y avait pas la télé du temps de Victor Hugo, il n'y avait pas dans avec les stars.
Depuis que le monde est monde, on s'intéresse à la fois aux hautes sociétés et aux gens du monde.
Tout à fait.
Et c'est bien qu'il reste des émissions familiales et ce qui dégénère, parce que c'est drôle.
Et moi, quand j'étais petit, les émissions familiales, c'était Interville, c'était bien. Les jeux de 20h, Interville.
Mais Interville, t'as eu la triche aussi, t'as eu la triche, Interville. C'est pareil.
Après, normalement, en fait, ce qui fascine assez, c'est que c'est une émission qui est hyper cloutée. Normalement, c'est hyper beau, les gens dansent, il y a des pleurs à chaque fois, apparemment. Il y a mon frère qui est machin. Bon, bref, c'est toujours comme ça. C'est beau, c'est plein de bons sentiments, et tout d'un coup, TF1 ne maîtrise plus. Et tout d'un coup, ça échappe à TF1. Oui. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, même les trucs les plus cadrés, il peut y avoir un échappatoire. Et c'est ça, je pense, qui fascine.
Une fois, c'est le bal populaire qui dégénère en bagarre.
Mais complètement, complètement. Alors que tout est censé être maîtrisé de A à Z. Je veux dire, j'ai bossé à TF1 pendant 3 ans, je t'assure. Tout est maîtrisé. De la couleur rouge, est-ce que le rouge est pas trop rouge, pas assez rouge, etc. Tout est maîtrisé. Et donc là, évidemment, et tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et c'est ça qu'on aime bien quand même. Charles Matin, ce matin sur RMC, une bouteille de vin à 1,66€, est-ce que ça vous choque? C'est l'enseigne Carrefour qui propose actuellement des prix ultra cassés sur des vins de Bordeaux. Si vous achetez 6 bouteilles d'un même château, cela vous revient à 1,66€ la bouteille. Cette promotion rend furieuse les viticulteurs, mais selon Emmanuel de Chypre, les enseignes n'ont pas d'autre choix pour écouler des stocks qui ne se vendent pas.
Le problème, c'est qu'effectivement, les stocks de Bordeaux bas de gamme sont absolument colossaux. Ces vins ne correspondent plus au goût des consommateurs, y compris les consommateurs chinois à qui on espérait fourguer tous ces mauvais vins avec juste l'appellation Bordeaux.
Disons-le clairement, on envoie la piquette en Asie.
Voilà, et ça, les Chinois, ils n'en veulent pas non plus. Et donc, on se retrouve avec une production beaucoup trop importante. Songez qu'on va déjà arracher 8000 hectares de vignes dans le Bordelais, et que les professionnels vous disent qu'il faudrait en arracher 30 000.
Oui, donc
30 000 hectares.
Est-ce que ça vous choque, Fred, qu'on puisse vendre des bouteilles de vin à 1,66€? On rappelle qu'il y a des sénateurs qui voulaient justement faire que les bouteilles de vin ne soient jamais bouteilles d'alcool à moins de 3,50€.
Ah oui, c'est très choquant. Non, c'est très choquant. Parce que déjà, ça dévertue le travail du viticulteur, quoi. Ça fait comme si... Et ça peut pas être bon à ce prix-là, je suis désolé, quoi. Voilà, donc c'est pas... non, mais c'est un très mauvais message qui est envoyé.
Après, c'est avec du bon vin, ça se saurait.
Oui, mais enfin entre du bon vin et du mauvais vin à 1,66€. Non mais bouteille de Bordeaux à 1,66€. Mais déjà la bouteille, la propre bouteille, elle coûte plus cher que ce qu'il y a dedans.
La bouche sur l'étiquette et la bouteille, ça coûte
plus cher. Donc non, c'est terrible. Et moi, je suis pour. Et c'est Après, ça, on essaie de lutter contre l'alcoolisme des jeunes. Un alcool trop peu cher.
Les jeunes deviennent ivres, ils voient que c'est pas cher.
Le jeune de 15 ans, c'est 1,60€.
Et ça intéresse.
T'as déjà vu des jeunes de 15 ans qui buvaient du Bordeaux?
Moi, malheureusement, tu mélanges avec du coca, il s'appelle un calimocho.
Oui, voilà. Je sais, merci. J'ai vécu à Bordeaux, donc je.
Je veux dire, vous êtes choqué. Alors, moi, je suis choqué pour des raisons de santé publique. On ne peut pas vendre de l'alcool à si bas prix. Mais oui, je veux dire, il y a le vin de Bordeaux à 1,60€, mais il y a aussi la villageoise qu'on voit tout en bas du rayon alcool. En tout cas, moi, quand j'étais lycéen, ça existait.
Préfontaine, ouais.
Anecdote personnelle, quand j'étais lycéen et que je découvrais la jouissance de l'alcool, comme on n'avait pas d'argent, on
t'as bu de la villageoise
à mélanger au coca. Nos premières cuites, nos premiers blackouts, nos premiers vomis, quand on a 16 ans.
Ah, mais jamais,
Et je peux te dire que le vomi à la villageoise, il est dur à passer.
Et même dans mes cauchemars, mon Dieu, mais c'est pas possible.
Mais quand t'as pas d'argent, quand t'es lycée,
tu préfères ne pas boire.
Désolé.
C'est l'insouciance de la jeunesse.
Je vois Robert qui est atterré. Après, on rappelle quand même qu'en fait, si cette bouteille est à 1,66€, c'est parce que, en fait, les gens ne boivent plus de vin de Bordeaux, parce que le vin de Bordeaux est souvent très fort en alcool, parce qu'il y a eu des sécheresses successives. Anna. Et en fait, le vin de Bordeaux a plus la cote. C'est-à-dire que les Français préfèrent aujourd'hui les vins beaucoup plus légers. Oui. Et donc, tu es bien obligé d'écouler les stocks. Tu ne vas pas laisser ça dans les caves de Carrefour. Donc, en fait, ils écoulent ça à 1,66€. Mais j'imagine, Robert, que ça vous choque, évidemment.
Mais ça me choque. Déjà, ça déprécie le vin de Bordeaux, en général. Alors, on sait qu'effectivement, les viticulteurs, ils ont touché le juste prix. C'est-à-dire que c'est Carrefour qui a payé. C'est Carrefour qui a payé, qui fait cette réduction, si vous voulez. Mais effectivement, je veux dire, ça, on en arrive. Et c'est du marketing, quelque part. C'est du mauvais marketing. Parce que ça se joue sur un produit, quand même, qui est un produit.
Plutôt noble.
Qui est un produit noble au départ, mais qui pose des problèmes de santé publique également.
Bien sûr,
et plus le prix est bas, plus on sait que ça va pousser effectivement la boisson.
Allez, on va terminer avec un dernier extrait, celui des GG. Le discours des écologistes est-il encore audible? Ça va vous faire rire. La secrétaire nationale du groupe Les Écologistes avait déclaré le 1er janvier 2023 qu'elle ne prendrait plus jamais l'avion. Le problème, elle s'est amourachée d'un arbre qui se trouve en Guyane. C'est-à-dire que bon, pour y aller en train, c'est compliqué. Soit à plus de 7000 km de la métropole. Elle s'est donc rendue sur place pour admirer cet arbre et elle a promis de revenir chaque année le voir. Un discours inaudible pour Aurélie, auditrice RMC qui participait aujourd'hui au GG.
Nous, on nous dit de nous serrer la ceinture, de faire attention, de consommer moins. Et eux, ils prennent un avion pour un arbre. Pour un arbre. Je répète, un arbre, quand même. Faut être perché. Non, mais à un moment donné, les écolos, moi je vous invite à vivre comme la maison de la prairie. Farling Gals, sans machine à laver, tout ça. Après, vous pourrez donner des leçons. Vous abandonnez aussi les téléphones et tout ce qui va avec. Parce qu'il y en a marre, ils nous donnent des leçons.
Elle avait dit qu'elle prenait plus l'avion.
Non, mais ils nous donnent des leçons. Et puis, machine à laver, électricité, voiture, déplacement avec 10 bagnoles. Ça ose te donner des leçons. Et ça va en Guyane arbre, en fait. Pour un arbre.
Pierre Rondeau, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas, celle-là. Et que pensez-vous de vos amis écologistes en ce moment?
Je vais rien dire, je suis dépité. Non, mais ça, qu'est-ce que... Il y a rien à rajouter.
C'est la plus mauvaise pub qui soit. Moi, j'ai cru que c'était le Gorafi au départ.
Mais moi aussi. Quand j'ai vu l'information sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment cru que c'était le Gorafi. Quand j'ai vu l'amourachée d'un arbre en Guyane tous les ans, elle nous dit de pas prendre l'avion. Et c'est vrai, moi, je me l'impose. Moi, je suis premier à dire, je suis gêné quand je dois prendre l'avion. Et la secrétaire générale d'Europe Écologie des Verts annonce tout sourire.
Déjà, elle annonce qu'elle est amoureuse d'un arbre
et aller le voir tous les ans en Guyane.
Mais elle peut pas tomber amoureuse d'un arbre dans la forêt de Compiègne.
Ou à Fontainebleau,
Elle tend le bâton pour se faire battre.
C'est la branche.
Mais Pierre, c'est le monde d'après. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, c'est comme
ça. Le monde d'après notre mort.
Voilà. La crédibilité des écolos.
Dans un instant, RMC s'engage avec vous. On va tenter d'aider les parents d'une petite fille qui n'existe pas. Enfin, si. En fait, elle existe, mais pas à l'état civil. Et bien sûr, ça pose des problèmes à ses parents parce qu'elle n'est pas censée exister. Enfin, bref, on vous explique ça dans un instant sur RMC. Et puis, à 14h, on vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. 4 Français sur 10 ont déjà consulté le portable de leur conjoint. Espionner son amoureux, est-ce normal ou malsain pour vous? Dites-nous tout. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, on vous aide avec Amélie Rosic. Voici RMC s'engage avec vous.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et aujourd'hui, Amélie, on va tenter d'aider les parents d'une petite fille qui n'existe pas. Enfin, oui, elle existe, mais
pas partout. Exactement. Venir en aide à la petite Emma qui fêtera bientôt ses 5 ans. Et accrochez-vous bien parce qu'on va faire un petit tour du globe. Son père, Mathieu, est français. Sa mère, Maria, est chilienne et allemande. Et leur fille est donc chilienne de sol et française de sang. On va dire ça comme ça.
Et allemande de quoi?
Allemande, mais alors de sang lointain, quoi. Voilà, ça c'est. On peut, hein, toujours, mais ça devient compliqué. Et surtout pour l'instant, elle n'a toujours pas de passeport tricolore et ils en ont besoin parce que la petite famille part s'installer, revient plutôt s'installer en Europe. Dans moins de 2 mois, Mathieu a transmis toutes les informations nécessaires à l'ambassade de France. Mmh. Je vous le donne en 1000. Le délai normal est de 8 semaines pour inscrire normalement Emma sur les registres de l'état civil français, qui est la première étape pour demander des papiers. Ça va faire 1 an et il n'a toujours rien.
J'ai reçu un mail me disant qu'il y avait du retard toujours dû au Covid. Moi, ça me fatigue. 1 an pour un dossier de 12 pages, c'est épuisant. Et en plus, je veux bien qu'il y ait des problèmes avec la pandémie. Bon, on est en 2024, la pandémie s'est passée depuis quelques temps quand même. Enfin, à moins qu'il y ait 1 million de Français qui vivent au Chili et qui veulent tous rentrer en Europe, c'est quand même un peu long.
Mais en fait, comme Mathieu est français, il a sa fille, même si elle n'a pas été déclarée française et qu'elle est chilienne, en fait, quel est le problème?
C'est compliqué, il faut faire une demande de visa pour sa fille, parce qu'elle est considérée comme étrangère, donc ça veut dire un visa de touriste.
Alors qu'elle est née de parents français.
Ouais, tout à fait, tant qu'il n'y a pas de transcription à l'état civil français, elle n'est pas considérée comme française.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe, Amélie?
Eh bien, Solène Leroux a contacté l'ambassade de France au Chili pour comprendre qu'il n'a pas été en mesure de nous expliquer pourquoi. Mais, je cite, écoutez bien, les délais importants dans ce dossier ne doivent pas faire perdre de vue les nombreux efforts effectués dans le cadre du projet de registre d'état civil électronique, nous dit une source diplomatique. Ce qui est vrai.
Super.
Ce qui est vrai. Il y a 3 ans, l'État a effectivement lancé la dématérialisation des fichiers, une modernisation qui a justement pour objectif d'accélérer les démarches pour les usagers. Enfin, en tout cas, ça, c'est à terme.
Oui, parce que là, ça n'a pas vraiment marché. Voilà. Pour Emma, est-ce que les parents doivent tout recommencer la procédure?
Heureusement, non, parce qu'on est là.
Ah,
quelques heures après notre mail à l'ambassade de France au Chili, l'acte de naissance d'Emma était enfin transcrit. Et on a même réussi à avoir une explication tard hier soir. Pardon, ça c'est grâce à la députée des Français de l'étranger, Éléonore Carrois. Mmh. Un manque d'effectifs au service consulaire à Santiago, la capitale, constaté par l'élu lorsqu'elle était en déplacement en septembre dernier, à la suite de quoi elle avait fait une demande de création d'un poste supplémentaire au service consulaire. Et c'est chose faite récemment, bonne nouvelle. La famille d'Emma a par ailleurs, parce que c'est pas tout à fait terminé, vous en doutez, a rendez-vous dans 10 jours, cette fois-ci pour demander le passeport, maintenant que l'acte d'état civil est transmis, avec un délai annoncé de 5 semaines, et on espère cette fois-ci qu'il sera tenu et on y veillera, bien entendu.
On va suivre ce dossier comme les autres, Amélie. Rosie, qu'on parle de quoi demain?
On vous fait des révélations sur un antibiotique très dangereux qui peut conduire carrément au handicap alors que vous alliez très bien.
C'est quoi?
C'est les fluoroquinolones et on sort une information très importante. Je vous invite à écouter demain.
Ah bah merci beaucoup, Amélie. Amélie, petite question très indiscrète. Est-ce que vous avez déjà consulté le portable de votre amoureux?
Jamais.
Non mais genre...
Je le jure.
Non mais attends.
Je le jure, juge Estelle.
Non mais je dis pas consulter.
Non parce que ça peut être un autre. Si c'était un ex, je pourrais
le
dire.
Non mais par exemple. Non mais en fait, je dis pas aller chercher son code et tout ça.
Ouais,
mais
ouais.
Genre le portable s'allume à côté de toi et tu jettes même pas un petit œil pour voir qui envoie un petit texto.
Je te jure jamais. Et d'ailleurs, je me suis souvent dit, je suis très présomptueuse parce que et d'ailleurs bon, peut-être trop égocentrique ou que sais-je, mais présomptueuse.
Je pars du principe. Pas le danger, cela dit.
Oui, je pars du principe que non, ça n'arrivera pas quoi. Enfin, ce dont on se doute.
Oui, on l'a. Merci beaucoup, Amélie, pour cette franchise. Dans un instant, on vous posera cette question, justement. Espionner son amoureux, regarder dans le portable de son conjoint, est-ce normal ou est-ce malsain? Vos témoignages, bien sûr. Déjà, quelques exemples croustillants sur l'appli RMC. On vous attend, en tout cas, au 32-16. N'hésitez pas, à tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.